Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Actuellement, nous nous concentrons sur la personne et l'enseignement de Jésus-Christ.
Aujourd'hui, nous allons parler de la relation que Jésus entretenait avec Dieu, son Père. Comme nous venons de l'annoncer, nous commençons aujourd'hui une nouvelle série d'émissions sur la personne de Jésus-Christ. Notre intention est d'examiner ce que nous apprenons de son exemple et de son enseignement. Je voudrais maintenant présenter mon invité, Jean-Marc, qui, à travers ses études, nous aidera à mieux comprendre la pensée de Jésus-Christ. Jean-Marc, dites-nous par où vous voulez commencer.
Bien sûr. Mais d'abord, je voudrais dire bonjour à nos auditeurs et vous remercier pour votre invitation. Je voudrais commencer aujourd'hui en examinant la relation privilégiée que Jésus entretenait avec Dieu, son Père.
Dire que Dieu est le Père de Jésus revient à affirmer que Jésus est le Fils de Dieu. Oh, de nos jours, cette notion choque profondément certaines personnes.
Cela est vrai. Et il faut admettre que cette affirmation choquait tout autant les Juifs que Jésus fréquentait il y a environ 2000 ans. D'ailleurs, c'est l'un des prétextes qui a conduit les autorités religieuses et politiques à condamner Jésus à la peine de mort. Toutefois, lorsque nous lisons les évangiles, nous constatons qu'ils annoncent et affirment que Jésus est bien le Fils de Dieu. Nous ne sommes pas en présence d'un excès de folie de la part de Jésus ni d'une invention humaine. Les Écritures nous révèlent tout simplement un aspect de Dieu.
Pouvez-vous citer des textes bibliques prouvant vos propos?
Bien sûr. Prenons comme exemple l'évangile de Luc. D'abord, nous apprenons qu'un ange, un messager divin, est venu auprès de Marie pour lui annoncer « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu te seras enceinte et tu mettras au monde un fils. » Tu le nommeras Jésus, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Marie apprit ainsi qu'elle deviendrait enceinte par la puissance de l'Esprit-Saint, et selon ce messager divin, il serait le Fils du Très-Haut, autrement dit, le Fils de Dieu. Parlons maintenant d'un événement s'étant déroulé à l'occasion du baptême de Jésus. Après qu'il fut baptisé, les Écritures relatent la scène suivante. Jésus fut baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Réfléchissons à la personne qui déclare que Jésus est son Fils. Une voix retentissante du ciel fut audible, car l'Éternel Dieu parlait. Aucun homme auparavant n'aurait jamais osé suggérer de tels propos, mais c'est Dieu lui-même qui les affirme, et pour cette raison, nous devons accepter que ces paroles sont vraies. Luc, l'auteur de l'Évangile, relate un autre incident similaire. Jésus était monté sur une montagne, accompagné par trois de ses disciples. Nous lisons d'abord, « Pendant qu'il était en prière, son visage changea d'aspect, ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. » Un peu plus tard, nous apprenons que, pendant qu'il parlait encore, une nuée se forma et les enveloppa, et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Une voix sortit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. »
Il est vrai que l'on ne peut être plus clair. Dieu a affirmé, plus qu'une fois, et publiquement, que Jésus est son Fils. Mais pouvez-vous expliquer davantage ce que cela implique?
Oui, la Bible enseigne que Jésus n'est pas un homme devenu Fils de Dieu, mais qu'il est Dieu le Fils depuis l'éternité.
Et donc l'Éternel, Fils de Dieu, est devenu un homme en la personne de Jésus-Christ.
C'est exact. Lisons ensemble le début de l'Évangile de Jean. « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. » Ensuite, Jean affirme de cette personne qu'il est à la fois Dieu et avec Dieu les paroles suivantes. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père.
Tout cela est bien difficile à saisir.
Il s'agit effectivement de mystères qui dépassent notre entendement. Mais nous ne devons pas nous en étonner. Dieu est tellement grand. Déjà, nous avons du mal à comprendre la complexité de la personnalité et du corps humain. Alors, comment pourrions-nous comprendre Dieu tel qu'il est ? Nous devons plutôt nous émerveiller devant les vérités que Dieu accepte de nous dévoiler et ce que le Seigneur a choisi de révéler aux hommes est que lui, le Dieu unique, existe en trois personnes, le Père et le Fils, auxquels nous devons ajouter le Saint-Esprit. Je le répète, la croyance comme quoi Jésus est le Fils de Dieu n'est pas issue de l'imagination humaine, mais provient de la révélation du Tout-Puissant.
Merci Jean-Marc de nous avoir si bien renseignés sur ce point. Mais que pouvons-nous apprendre de cette vérité ?
Je voudrais passer d'un mystère à un autre, tout aussi étonnant.
Et quel est-il ?
C'est que chacun d'entre nous peut devenir fils ou enfant de Dieu, c'est-à-dire avoir l'Éternel pour Père.
Mais avez-vous des textes bibliques pour appuyer votre pensée ?
Bien sûr. Je pense à deux passages bibliques. D'abord, citons dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean les versets suivants. « Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. » Et puis un texte de l'apôtre Paul, trouvé dans son épître aux Galates, « Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. »
Il est merveilleux de pouvoir dire que l'on est enfant de Dieu et de vivre avec l'assurance d'avoir Dieu pour Père. Mais que signifie cette vérité ?
Il est vrai que nous ne sommes pas fils de Dieu de la même manière que Jésus l'est, car nous ne sommes pas enfants de Dieu depuis l'éternité, tout comme Jésus. Également, en devenant enfants de Dieu, nous ne devenons pas comme des dieux, car nous ne revêtons pas alors un caractère divin. Quand la Bible affirme que le croyant est enfant de Dieu, elle veut dire que nous pouvons entretenir avec le Seigneur la même qualité de relation personnelle qui caractérise celle existant entre Dieu le Fils et Dieu le Père.
Pouvez-vous donc décrire cette relation entre Jésus et son Père céleste ? Et ensuite nous citer les qualités auxquelles nous pouvons aspirer dans notre relation avec Dieu le Père.
Ce sera le thème de notre prochaine discussion ensemble. Nous pouvons effectivement beaucoup apprendre des évangiles sur la qualité de la relation que Jésus entretenait avec son Père céleste. Afin de vous en donner un petit avant-goût, je peux tout de suite vous énumérer quelques-unes de ces qualités. Nous pouvons parler de l'amour et de la confiance qui régnait entre l'un et l'autre. Nous examinerons ensemble aussi l'harmonie et la complicité qui est la leur, lorsqu'ils œuvraient ensemble pour réaliser un projet en commun. Nous citerons aussi la soumission du Fils envers son Père, son obéissance et son désir de glorifier le Père.
Je comprends qu'une telle relation avec Dieu soit désirable. Elle se distingue tellement de certaines pratiques religieuses ou superstitieuses qui inspire davantage la crainte et la servitude.
C'est exactement la pensée de l'apôtre Paul qui, à ce sujet, s'exclame. En effet, nous n'avons pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ».
Merci Jean-Marc. Nous devons nous arrêter là. Mais comme nous l'avons déjà annoncé, nous en parlerons davantage la prochaine fois.
Yann, vous voulez commencer une nouvelle série de courtes méditations bibliques aujourd'hui. Quel est leur titre ?
La gloire de Jésus-Christ dans l'Évangile de Jean. Hélène, pouvez-vous lire Jean chapitre 1, verset 14, s'il vous plaît ? Ce sera notre point de départ.
Bien sûr. L'apôtre a écrit « celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité.
Nous allons aborder cette série avec la pensée que la meilleure façon d'apercevoir la gloire de Dieu est de contempler Jésus. Pour cela, nous allons nous pencher sur l'évangile de Jean. Même si la gloire de Dieu est tout aussi éclatante et évidente dans les autres évangiles.
Dites-nous, Yann, quelle est la signification du mot « gloire » ?
La gloire d'une personne est tout ce qui contribue à sa renommée. Sa gloire est tout ce qui démontre son importance, tout ce qui révèle l'éclat de sa beauté et les perfections de son caractère. Également, la gloire d'une personne est tout ce qui nous rend admiratifs d'elle. Prenons le cas de certains présidents dans divers pays. Ils cherchent à montrer leur importance ou leur gloire, en bâtissant des palais luxueux par exemple, ou en se faisant conduire dans des voitures spéciales, ou encore en s'habillant de façon particulière. Bien sûr, la gloire de Dieu surpasse de loin toute gloire humaine. Et selon l'évangile de Jean, c'est dans la personne de Jésus-Christ que nous découvrons tout l'éclat de cette gloire.
Mais pourquoi est-il si important de parler de la gloire de Jésus-Christ?
D'abord parce que Jésus-Christ est digne de notre adoration. Lorsque nous saisissons, ne serait-ce qu'une partie infime de sa gloire, un élan de louange et de reconnaissance ne peut que jaillir de nos cœurs. Ensuite, parce que nous sommes émerveillés par la gloire de Jésus-Christ, nous ne pouvons que lui accorder la place qui lui revient dans nos vies, en l'accueillant comme le véritable roi sauveur, et en le laissant régner dans nos cœurs. De plus, si nous sommes saisis par la gloire de Jésus-Christ, nous prenons plaisir à le connaître davantage, et, satisfaits de sa présence, nous sommes moins attirés par le péché. Enfin, une compréhension de la gloire de Jésus-Christ fortifiera notre espérance et nous aidera à mieux endurer et à surmonter les événements difficiles que nous pouvons vivre. Comme l'affirme l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Corinthe, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au point insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare.
Merci Yann. Nous arrivons ainsi à la fin de notre émission et espérons vous retrouver bientôt pour découvrir davantage l'enseignement de Jésus et apprendre à le connaître.
En attendant, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.